9h-11h,
François Claus.
Tour de la question, deuxième heure, Marlène, et le 39-21 est toujours là pour vous. On a envie d'entendre vos témoignages, vos réflexions autour de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle.
Il y a tellement à dire.
Elle nous fascine, elle nous fait peur également. Va-t-elle détruire des emplois? Va-t-elle en créer? Jusqu'à quel moment, nous, avec notre intelligence humaine, on va garder le contact par rapport à ces robots qui nous font peur, mais où, sur lesquels il y a peut-être beaucoup de mythes. En même temps, il y a tellement de séries en ce moment.
Visionnaires, il y a des livres prophétiques
regardez
aussi.
Regardez Ad Vitam en ce moment, par exemple, sur Arte, tellement de livres qui en parlent qu'on a décidé de faire le tour de la question. Et je suis heureux d'accueillir dans ce studio d'Europe 1 l'homme qui vous fait vivre sur l'antenne toutes les innovations. Bonjour Anicem Bida.
Bonjour François.
Alors, on va aller là au-delà des innovations, des gadgets qui changent notre vie, même s'ils sont importants. On va avoir une réflexion plus globale sur les champs dans lesquels cette intelligence artificielle va se développer en 2019.
Il y en a beaucoup.
Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais on va essayer de faire le tour de la question malgré tout en une heure. On attend vos témoignages bien sûr sur le hashtag ou sur le 3921.
Oui, n'hésitez pas à réagir, à prendre la parole. 3921, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis on prend le temps de lire tous vos commentaires sur les réseaux sociaux liés à la page Facebook d'Europe 1 à votre disposition. Et bien sûr Twitter, vous l'avez dit, avec le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec François Claus sur Europe 1.
Lorsqu'on observe le monde, l'injustice, l'intolérance et les défis environnementaux gigantesques, il est difficile d'imaginer un avenir radieux. Mais c'est possible. Et on doit y parvenir.
Mais combien de temps le bonheur dure réellement dans la vraie vie ?
Voilà, alors pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est la bande-annonce de cette formidable série anglaise qui s'appelle Black Mirror, qui nous interroge justement sur le progrès technique, beaucoup sur les médias et l'information aussi, et dont la quatrième saison est aujourd'hui proposée sur la plateforme Netflix. Anicem Bida, je vais commencer en lisant une phrase, un peu provocatrice. L'usine du futur aura deux employés, un homme et un chien, un homme pour nourrir le chien et un chien pour protéger les robots. Fin de citation, c'est un peu provocateur, mais vous nous le disiez à l'instant, cette intelligence artificielle va se développer dans beaucoup, beaucoup de domaines.
Énormément de domaines. Alors, ce que j'aime bien dans cette citation, c'est qu'on ne dit pas quand.
Oui, mais c'est ça. Tout comme Black Mirror qu'on évoquait à l'instant.
Souvent,
est-ce demain, est-ce après-demain ?
On annonce toujours des choses pour... ça fait quand même une trentaine, une quarantaine d'années qu'on annonce ce monde avec des robots qui vont remplacer l'homme. On n'en voit pas encore la queue du début, hein, à part dans les films, on pourra en reparler. Et ça va certainement, l'intelligence artificielle va certainement transformer nos vies, transformer notre société. La question, c'est quand et à quel point.
Dans certains métiers quand même, dans les caissières.
Pour le moment, non.
Sont pas transformées, non.
On a un exemple aujourd'hui d'un magasin je crois qu'il y en a deux magasins dans le monde qui sont des expériences. Et des magasins sans caissière, ça existait déjà même avant l'intelligence artificielle. On pouvait aller scanner soi-même son panier et le poser directement à sa caisse. On pouvait le faire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Ce n'est pas ça qui va remplacer les caissières. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. C'est l'automatisation de façon traditionnelle qui existe depuis toujours. Et l'intelligence artificielle, c'est peut-être la petite couche en plus avec ce Black Mirror et toutes ces choses un peu anxiogènes qu'on nous balance en disant qu'on va remplacer l'intelligence humaine. Mais on en reparlera et on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore et peut-être fort heureusement.
Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais. C'est surtout ça que je voulais dire, c'est que non seulement on n'y est pas encore, on approche, mais peut-être qu'on n'y arrivera jamais.
Et c'est la partie qu'on évoquera en fin d'émission tout à l'heure. Jusqu'où peut-on aller et à quel moment? Voilà le débat posé par Anicem Bida. Bonjour Bertrand Braunschweig.
Bonjour.
Vous êtes directeur du centre de recherche INERIA à Saclay, pôle d'excellence française. Vous êtes un des grands spécialistes français de l'intelligence artificielle et je vous remercie de nous rejoindre sur Europe 1. Commencez tout simplement par donner une définition à nos auditeurs, parce qu'on entend tout et n'importe quoi et on fait des amalgames parfois un peu trop rapides.
En fait, c'est assez intéressant parce que la Commission nationale de la langue française a défini récemment l'intelligence artificielle. Il y a une publication au Journal officiel de décembre qui a redéfini ce terme. Alors, ceci étant, leur définition, elle est compatible avec à peu près tout ce qui existait jusqu'à présent. C'est-à-dire, en fait, c'est faire à des machines des actions, des activités qui demandent de l'intelligence humaine, comme percevoir, raisonner, apprendre, mémoriser, collaborer, interpréter, décider, planifier, diagnostiquer, voilà. Donc en fait, on peut définir l'intelligence artificielle par une phrase comme je viens de le faire, mais on peut aussi la définir par l'ensemble des technologies qui y contribuent. Typiquement l'apprentissage automatique, le raisonnement symbolique, la planification automatique, l'optimisation non conventionnelle et un certain nombre d'autres technologies.
Voilà. Très clairement du côté, alors je me base sur le rapport Villani, oui. Le grand mathématicien devenu député, il y a quatre domaines sur lesquels on travaille, on veut travailler ou on doit travailler essentiellement en France, la santé, l'environnement, la mobilité et les questions de sécurité et de défense qui posent dans chacun de ces domaines quelques problèmes. Pour vous, Anissa Mbida, c'est là que ça va se jouer dans ces quatre secteurs-là?
Il y a un secteur qui est oublié, c'est le secteur du divertissement et le secteur du personnel, parce que c'est là où il y a les plus gros progrès aujourd'hui. Ce sont les téléphones portables, ce sont les enceintes, les fameuses enceintes connectées qui se sont énormément vendues à Noël. Et là, on n'est pas dans la médecine, on n'est pas dans l'éducation, on n'est pas dans l'environnement. Et c'est un bon, je comprends, le rapport Villani, c'est un rapport gouvernemental, donc il est là pour parler de l'intérêt de la France. Mais il se trouve que les grands acteurs du secteur aujourd'hui sont plutôt des acteurs commerciaux et qui veulent faire de l'argent. Et comment on fait de l'argent? En vendant des produits grand public, c'est surtout ça. Évidemment, si après on peut vendre des produits aux institutions ou si on peut vendre des produits au gouvernement, c'est tant mieux. Mais d'abord, le premier champ où on va avoir le premier terrain de jeu de toutes ces technologies, ça va être le grand public.
Le grand public. Néanmoins, vous qui travaillez à Saclay, Bertrand Braunschweig, les secteurs définis par M. Villani, c'est là où on va attendre et voir. Et on voit déjà des choses... qui nous fascinent, les robots chirurgicaux notamment. Qui n'empêchent pas et qui ont besoin de la main humaine aussi, ou du contrôle humain. Mmh. Expliquez-nous un peu sur ce plan de la santé, puis ça nous fera la transition avec le débat précédent sur la situation de l'hôpital en France, ce que l'intelligence artificielle a apporté dans ce domaine.
Oui, alors la santé est vraiment en train d'être révolutionnée par l'intelligence artificielle. Et essentiellement d'ailleurs par la partie de l'intelligence artificielle qui se développe le plus en ce moment, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond. Pour simplifier, disons, les réseaux neuronaux profonds. En fait, c'est la partie de l'intelligence artificielle qui se fait sur la base des données. Et donc dans le domaine de la santé, on a accès à énormément de données, des banques d'images, des diagnostics, etc. Et donc les algorithmes d'apprentissage travaillent sur cet ensemble de données pour définir eux-mêmes, pour améliorer leur performance. Ce qui fait que, par exemple, pour l'identification de défauts sur une image, à partir de cette base d'apprentissage, les systèmes arrivent à être très très performants, en fait plus performants que, disons, les meilleurs spécialistes humains. Donc typiquement, c'est pour les radiographies, ou récemment, par exemple, la FDA, l'administration américaine, a autorisé en fait un système d'intelligence artificielle pour la rétinopathie, c'est-à-dire le diagnostic du diabète basé sur l'analyse de la rétine. Et donc c'est la première fois qu'un produit de type intelligence artificielle a été autorisé par cette administration.
Et là où on attend encore le plus grand des progrès, c'est la médecine préventive. On n'est plus dans le curatif, mais dans le préventif, c'est-à-dire d'anticiper les maladies, de se dire, bah tiens, cette personne risque d'avoir un cancer dans 10, dans 15, dans 20 ans, ou risque d'avoir telle maladie dans 15 ans.
C'est un robot qui nous examine, en fait.
Vous êtes
en
train de toujours des robots, ce sont des algorithmes qui sont capables de prévoir que vous allez avoir une maladie, donc vous soignez en avance et évitez que vous l'attrapiez.
Voilà, le débat est posé. Nous aurons dans quelques instants un autre... des grands spécialistes français de cette question au téléphone, Laurent Alexandre. Et puis vous, on attend vos témoignages. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous en avez un peu peur aussi? Pourquoi pas?
3921, c'est le numéro qu'il vous faut composer si vous souhaitez intervenir sur notre antenne en direct. 3921, 50 centimes la minute. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. En ce début d'année, on fait le point sur l'intelligence artificielle. Que faut-il en attendre? Faut-il en avoir peur? On fait le tour de la question jusqu'à 11h sur Europe 1 avec vous, François Claus, et avec vos invités. Bertrand Braunschweig, directeur du centre de recherche INRIA Saclay Île-de-France, est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Avec nous aussi également dans nos studios, on le connaît bien, c'est Anis Mbida, notre journaliste spécialiste des innovations sur Europe 1.
Et on évoquait avec vous sur le plan de la santé ce que cette intelligence artificielle était en train d'apporter et pouvait apporter, comme le disait Anis, en matière de prévention, secteur décisif dans la médecine. Mais ça pourrait être un bon exemple, j'allais dire, d'une bonne cohabitation entre l'homme et la machine, le domaine de la santé.
En fait, on n'est pas du tout dans l'esprit de remplacer l'opérateur humain ou le spécialiste humain par une machine. On est dans l'esprit d'aider, en fait, de rendre plus performants les personnes grâce à ces technologies, de manière à leur faciliter la tâche. Quand il y a un très grand nombre d'analyses à faire et que le système peut faire un premier pré-traitement de ces données pour identifier celles sur lesquelles le spécialiste doit se pencher, là, on est vraiment dans l'amélioration de la performance humaine, en fait.
Laurent Alexandre nous a rejoint au téléphone. Bonjour, Laurent Alexandre. Alexandre.
Bonjour.
Vous êtes un des grands spécialistes aussi, passionné par ces questions. Vous êtes à la base d'ailleurs chirurgien avant de devenir entrepreneur et essayiste. Cette intelligence artificielle, on évoquait le domaine de la santé à l'instant, va envahir notre vie pour le bien ou pour le pire? Que nous dites-vous?
Oh, je suis plutôt un optimiste, je ne crois pas à la fin du monde, mais l'intelligence artificielle va poser des problèmes sociaux. Il est hors de question d'avoir un remplacement des médecins par l'intelligence artificielle. Mais il y a des gens qui sont assez pessimistes sur le devenir des médecins. Par exemple, Kai Fu Lee, le grand spécialiste chinois de l'intelligence artificielle, pense que les progrès de l'intelligence artificielle dans le diagnostic sont tellement rapides que vers 2030-2035, le médecin exécutera les décisions de l'intelligence artificielle. Et il a une formule absolument terrible. Le médecin de 2030 sera un tiers infirmière, un tiers technicien, un tiers assistante sociale. Ce n'est plus lui qui décidera. Ce sera l'intelligence artificielle. Donc il y a non pas la peur d'une disparition des médecins, mais d'une déqualification des médecins. On voit bien en radiologie, par exemple, qu'aujourd'hui, les médecins sont moins bons que l'intelligence artificielle. Même si l'intelligence artificielle n'est pas intelligente au sens humain du terme, quand on met en face les meilleurs spécialistes de la radiologie et des intelligences artificielles, les médecins sont humiliés. Même quand on leur laisse beaucoup plus de temps que l'intelligence artificielle, ils n'arrivent pas à la même rigueur, à la même qualité de diagnostic. Donc on va avoir non pas une disparition des hommes, mais selon les secteurs, un changement radical du rôle des médecins humains et peut-être une déqualification. Alors il faut bien voir qu'en médecine, on a une grosse différence entre ce qui est manuel et ce qui n'est pas manuel. Contrairement à ce qu'on dit, les robots chirurgicaux, ce ne sont pas des robots. Ce sont des bras télémanipulés qui sont 100% du temps sous le contrôle du chirurgien. Parce qu'en réalité, la dextérité des robots ne fait pas beaucoup de progrès. Aujourd'hui, une intelligence artificielle est capable d'analyser un scanner mieux que les meilleurs radiologues sur Terre.
Mais lorsqu'il faut le geste décisif, on a besoin...
Non. Mais les robots ont une dextérité de leurs mains qui est inférieure à celle d'un nourrisson, d'un bébé. Donc on fait des progrès très lents en robotique et on fait des progrès très rapides en intelligence artificielle. Il faut vraiment séparer les robots et l'intelligence artificielle parce qu'on a deux dynamiques industrielles totalement différentes. C'est la raison pour laquelle il est plus facile de remplacer un radiologue qu'un ouvrier.
Merci de ces précisions. Réaction de Anis Mbida.
Oui, mais je pense que c'est très important. C'est qu'on a, dès qu'il y a un algorithme, parce que maintenant, on saupoudre le mot intelligence artificielle un peu partout en pensant que ça va révolutionner, que ça va devenir magique. Mais c'est ni plus ni moins qu'une évolution technologique qu'on a connue depuis des années. La calculatrice est arrivée, les tableurs sont arrivés, les traitements de texte sont arrivés, les outils, les bases de données sont arrivés. Ça a permis d'améliorer, ça a changé certains métiers, ça a supprimé certains métiers, mais ça a permis d'améliorer les capacités des hommes avant tout. Et on a l'impression, parce qu'on a balancé ce nouveau mot qui s'appelle intelligence artificielle, qui n'est pas un nouveau mot, on pourra en reparler aussi, c'est quelque chose d'un peu nouveau et d'un peu marketing, et ben ça va tout changer. Non. Il faut cesser d'être biberonné par la science-fiction et par les films et de regarder
et de revenir,
que ce système-là, c'est
réalité.
Juste une évolution technologique qui va permettre d'améliorer certaines choses et évidemment, il va y avoir des transformations.
Je vais donner la parole dans un instant à Bertrand Braunschweig. J'allais ajouter quand même un mot à ce que nous disait Laurent Alexandre. Effectivement, la main du chirurgien reste plus habile que la main du robot et puis la médecine, c'est aussi tenir une main
oui,
et avoir un regard en face.
La compassion, l'accompagnement.
On l'a vu tout à l'heure et ça reste un élément important. Allez, courte pause Marlène et on revient avec Bertrand Brandschweig qui voulait réagir.
Oui, continuez à réagir également sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On a quelques messages. Par exemple, on a un auditeur qui nous dit beaucoup de peur autour de l'intelligence artificielle et il cite un scientifique. La stupidité naturelle est plus dangereuse que l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est dit. 39-21 si vous souhaitez intervenir en direct sur Europe 1. On fait le tour de la question jusqu'à 11h sur Europe 1. 10h22, on continue à faire le tour de la question. L'intelligence artificielle, oui. L'intelligence artificielle, un sujet passionnant, on en parle ce matin. Les intelligences artificielles qui vont faire irruption cette année dans notre quotidien, on va en parler.
Elles le sont déjà.
Les nouvelles.
Et on va, on s'intéresse aux conséquences et on recadre aussi.
On recadre aussi avec vos invités. Anis Mbida, notre spécialiste innovation, est avec nous. Et puis Bertrand Brandschweig, directeur du centre de recherche INRIA Saclay-Île-de-France, est un spécialiste de l'intelligence artificielle. N'oublions pas aussi le docteur Laurent Alexandre, qui est chirurgien, entrepreneur et essayiste, auteur d'un ouvrage, La guerre des intelligences, comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation.
Alors, vous vouliez réagir, Bertrand Brandschweig, au débat qu'on avait autour de l'application de l'intelligence artificielle, de ses algorithmes, de ces robots également pour la chirurgie, dans le domaine de la santé.
Oui, non, mais Laurent Alexandre avait raison en disant que les performances sont très, très, très importantes et éventuellement supérieures à celles des humains. Mais il y a quand même une question très importante qui va se poser, c'est celle de la confiance. C'est pas du tout la même chose si mon système d'intelligence artificielle est là pour me conseiller le prochain film que j'ai regardé sur mon vol transatlantique. S'il se trompe, c'est pas grave, je regarderai un autre film.
Là, vous faites allusion à Google qui vient d'annoncer qu'il avait son robot qui pouvait surfer avec émotion et sur le net. Anis Mbida.
Non, pas que, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à utiliser ces systèmes-là pour décider si, par exemple, beaucoup de pays utilisent ces systèmes-là. En Chine, on utilise la reconnaissance faciale pour désigner ou reconnaître les voleurs, les méchants, les personnes qui ont un casier judiciaire, par exemple. On l'utilise au poste aux frontières. On s'est testé en ce moment en Europe, sur les frontières de l'Europe, pour les migrants, pour vérifier si les migrants disent bien la vérité ou disent des mensonges. C'est utilisé par les cabinets de recrutement pour savoir si quelqu'un est en train de mentir sur son CV, s'il a vraiment les compétences requises. Donc aujourd'hui, ces systèmes-là peuvent aussi prendre des décisions. Puis on peut le dire, quand on parle de confiance, c'est utilisé dans les voitures autonomes pour décider de tourner à gauche ou à droite.
On va y venir différents. Oui,
donc,
vous
peut être très grave.
Il y aurait besoin d'une forme de validation humaine derrière un diagnostic artificiel.
Disons qu'il y a des systèmes non critiques, comme de la recommandation vidéo, où là, la confiance joue assez peu. Par contre, quand il s'agit de systèmes qu'on appelle life critical, qui sont critiques pour la santé humaine, notamment, ou mission critical, par exemple dans le domaine de la défense, dans le domaine du nucléaire, là, on a besoin d'avoir confiance dans le diagnostic qui est formulé par le système artificiel. Or, dans ce qu'on fait aujourd'hui, et notamment les systèmes avec apprentissage automatique, ne sont pas aujourd'hui capables d'expliquer leurs décisions, leurs propositions. On a accès à l'intérieur du système pour voir, mais on ne voit en fait que des ensembles de chiffres qui ne donnent pas d'explications. Donc il y a depuis quelques années un mouvement assez important sur la nécessité de fournir des explications sur les diagnostics formulés par les systèmes d'intelligence artificielle, de manière à instaurer cette confiance. Parce que s'il n'y a pas cette confiance, les gens diront ben non, on n'en veut pas, on n'y croit pas. Expliquez-moi pourquoi cette machine ne m'accorde pas le crédit ou au diagnostic que j'aurais peut-être un cancer alors qu'aucun élément ne permet de l'étayer.
Et là, c'est très, très important parce que les gouvernements, justement, un peu omnibulés par cette poudre perlimpinpin intelligence artificielle, commencent à utiliser des start-up, lancent des systèmes, par exemple, aux États-Unis pour la justice, parce que parfois, c'est beaucoup plus rapide que du maître des êtres humains quand il y a beaucoup de procès ou de choses à gérer. Ou l'attribution des aides. Par exemple, aux États-Unis, c'est utilisé pour l'attribution des aides sociales. C'était trop compliqué, trop long avec des humains. Et donc, on a mis des algorithmes en place et des algorithmes qui vont dire bah, tiens, telle personne a droit à une aide sociale, telle personne n'en a pas le droit. Mais si on n'est pas capable d'expliquer et si on n'a pas confiance en ce système-là, ou s'il y a des biais dans le système, parce que. On rappelle ces systèmes d'apprentissage automatique et comment ils fonctionnent. Ils regardent des centaines de milliers de chats et après, ils sont capables de reconnaître un chat. Mais parfois, si on ne leur a pas donné les bonnes données, parce que la qualité d'une intelligence artificielle des données et la qualité des données qui lui sont données à apprendre, qui lui sont envoyées à apprendre, on peut se retrouver avec des biais. Typiquement, les systèmes qui sont utilisés par la police et par les forces de l'ordre ont tendance à reconnaître des Noirs comme étant des délinquants et pas des Blancs, parce que la plupart de leurs données considèrent que les Noirs sont plus délinquants que des Blancs. Et ça pose des problèmes.
Ah, c'est bien. des gros problèmes.
Oui, très gros problèmes. Non, mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Et alors, on a besoin d'une part d'explications, mais on a aussi besoin, en allant plus loin, de vérifications, de preuves, de certification des systèmes, notamment dans le cadre des systèmes qui sont critiques pour la santé ou pour la vie humaine.
Oui, parce que si l'algorithme créé par le cerveau humain est créé par un cerveau, on va dire, perfide, un cerveau qui voudrait le mal de l'humanité, ça peut se reproduire très très vite s'il n'y a pas ces contrôles.
Oui, mais en fait, il n'y a pas aujourd'hui de cerveau qui souhaite le mal de l'humanité, à ma connaissance, en tout cas pas dans les développements.
Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire.
Ils n'ont pas besoin d'intelligence artificielle pour faire le mal, hein, de toute façon.
Je parle de cerveau artificiel, pardon.
Absolument. Laurent Alexandre, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes grand, je peux dire militant de l'intelligence artificielle. Vous y croyez, vous l'accompagnez.
On ne peut pas ne pas croire à l'intelligence artificielle. Le problème, c'est de savoir si on peut l'encadrer ou pas. Monsieur Brunswick a vraiment raison. Le problème de la preuve et le problème de la confiance est très, très important. Malheureusement, on a un problème, c'est que la complexité des systèmes d'apprentissage automatique, qu'on appelle le deep learning, croît plus vite que notre capacité à les expertiser et à les comprendre. Déjà aujourd'hui, on a des systèmes avec 800 millions de neurones virtuels. Les gens de Facebook pensent qu'on atteindra rapidement 10 000 milliards de neurones virtuels dans les systèmes d'intelligence artificielle.
Par rapport à nos neurones, à nous, rappeler la proportion, Laurent Alexandre,
on a 85 milliards de neurones à peu près. Mais donc, il est de plus en plus difficile de comprendre les choix et les décisions que prend l'intelligence artificielle. Il est probable que quand on aura des réseaux de neurones avec 10 000 milliards de neurones artificiels, il sera très difficile de pouvoir comprendre, de pouvoir auditer ce que fait l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va abandonner l'idée de comprendre ce que fait l'intelligence artificielle et qu'on va regarder les résultats. Par exemple, si vous avez une intelligence artificielle qui donne 92% de chances de guérison à votre enfant leucémique, vous allez la préférer aux meilleurs spécialistes mondiaux humains de cancérologie s'ils ne donnent que 74% de chances de survie à votre gamin. Donc finalement, vous vous moquerez du fait que c'est une boîte noire, ce qu'on appelle une black box, et vous préférez une intelligence artificielle efficace pour guérir votre gamin qu'un docteur biologique, même si lui, le docteur biologique, il vous donne des explications. Parce que vous préférez que votre enfant guérisse, que vous compreniez ou pas comment fonctionne la boîte noire de l'intelligence artificielle.
Vous avez Alicia Bidard,
il n'est pas certain que dans le futur, on souhaite vraiment comprendre ce que décide l'intelligence artificielle. Si elle décide mieux que nous, on préférera guérir notre gamin, même si on ne comprend pas comment l'intelligence artificielle a décidé.
Alors, Laure Alexandre utilise l'élément qui est un peu, enfin, qui fait peur à tout le monde. Qui fait pas peur, qui est bon pour le cœur, pour tout le monde, parce que son enfant, évidemment, on a envie qu'il soit guéri. Mais prenons un autre exemple, la voiture autonome ou l'avion autonome.
On pourrait faire des avions autonomes.
Personne ne voudrait, même s'il est plus efficace, monter dans un avion autonome ou une voiture autonome.
On a de la pub intelligente.
On monte déjà dans le métro, hein. Non, il y a des métros sans.
Il est sur Terre.
Bon, on y va. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous intéressez-vous à l'intelligence artificielle? Bah, dites-le nous. 3921, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis les réseaux sociaux, hashtag Europe 1 sur Twitter. 10h31, l'intelligence artificielle sous le feu des projecteurs d'Europe 1. Que faut-il en attendre? Peut-on domestiquer l'intelligence artificielle? Doit-on s'inquiéter? On fait le tour de la question avec vous, François Clos, et avec vos invités.
Et Anissé Mbida, monsieur Innovation sur Europe 1, vous vouliez réagir au propos de Laurent Alexandre, oui, qui prenait un exemple, il faut le dire, un peu extrême, un peu.
Il est médecin, donc c'est normal qu'il parle de soigner des enfants. Et quand on parle de soigner son enfant, on veut tout, même les traitements les plus expérimentaux, parce qu'on veut soigner son enfant. Il n'empêche que ces systèmes-là, même s'ils démontrent. Aujourd'hui, on a démontré qu'une voiture autonome est capable de conduire mieux qu'un être humain. Enfin, en tout cas, fera moins de morts sur la route qu'un être humain. Mais ça n'empêchera pas que dès qu'il y a eu le premier accident mortel d'une voiture autonome, il y a 3000 morts par an hein, aujourd'hui, par mois. Qu'est-ce que je dis par mois?
Non, 3000 par an en France.
3000 par an en France.
On était à plus de 10 000 il y a quelques années.
3 000 par an en France. Et pourtant, dès qu'il y a eu un accident mortel avec une voiture autonome, ça a fait la une des journaux. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. La confiance est quelque chose d'extrêmement important. On ne veut pas laisser sa vie. Alors, bien sûr, quand c'est son enfant, on veut tout faire pour le soigner. Mais on ne veut pas laisser sa vie, forcément, à une machine.
Alors, avant de donner la parole à Bertrand Brunswick, nous avons beaucoup de réactions. Le sujet passionne, là, du côté du 3921. Anthony est en ligne avec nous. Bonjour, Anthony.
Bonjour François, bonjour à tous.
Votre question, votre témoignage, votre réflexion à vous, Anthony.
Oui, alors tout d'abord, j'aime beaucoup Amitié Mbita. Je trouve qu'il est... Il est très doué dans ce qu'il fait. Ouais, parce qu'il est très bon pour vulgariser des choses extrêmement compliquées. Je trouve qu'il est... Enfin, moi, je l'écoute beaucoup. Je l'écoutais notamment dans l'émission de midi, là, il y a quelques temps. Il est vraiment brillant, ce garçon. Donc,
mais voilà, on a plein de garçons brillants avec de l'intelligence humaine.
J'en doute pas.
À côté de moi, il y a quelqu'un d'encore plus brillant.
Allez-y,
très bonne
Anthony.
Recrue pour la station. Ouais. Donc, moi, l'intelligence artificielle, je trouve que c'est quelque chose qui est à la fois fascinant et inquiétant. Un exemple concret, sur mon smartphone, quand j'ai voulu télécharger dernièrement tout simplement l'application Page Jaune, hein, donc l'application plus simple et basique, eh bien Google me demande pour le système Android s'il peut avoir accès à mes photos, mes vidéos, mes contacts et mes SMS. Enfin, je vois pas le rapport avec les pages jaunes. Quoi. Donc moi je trouve que l'intelligence artificielle, pour moi c'est un mix entre les films Minority Report et La Planète des Singes. Finalement, on ne sait pas trop ce que c'est assez inquiétant.
En même temps, Anthony n'est pas forcément débordé là par l'intelligence artificielle, mais par du marketing de haut vol, on va dire.
Oui, c'est pas
dans tous les sens du terme.
Ça n'a rien à voir avec les questions d'intelligence artificielle. C'est simplement que les applications sur smartphone aiment bien avoir accès à tout un tas d'informations. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière.
Et un petit peu quand même, quand on
les
a vu ce que fait le scandale de Facebook avec Cambridge Analytica, qui faisait jouer les gens à un jeu assez bénin, mais pour après était capable de savoir si les personnes allaient voter pour Trump ou étaient favorables au Brexit, et donc ils récupéraient des données. C'est du marketing, on veut vendre des choses derrière.
C'est intéressant d'avoir accès aux données des personnes, ça
voilà.
Je suis d'accord.
Et donc après on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour tirer des lois de ces données. Alors là on n'est pas en train d'essayer de trouver un cancer ou d'essayer de trouver une façon de trouver une nouvelle molécule, mais là on essaie de trouver un client, de savoir qu'est-ce qu'il va acheter demain et pour qui il va voter. Et ça a énormément de valeur. Je le disais tout à l'heure, on parle de médecine, on parle de loi, on parle de gouvernement, mais il y a aussi des tas d'entreprises commerciales qui veulent gagner de l'argent avec ces technologies.
Et ce secteur est en plein développement parce qu'on parle des emplois potentiellement perdu demain, mais c'est aussi le secteur où on lève le plus de fonds actuellement,
énorme,
où se développent des entreprises, Bertrand Brandschweig.
En fait, non seulement les entreprises, mais la plupart des grands pays du monde entier sont en train de mettre des investissements assez colossaux sur l'intelligence artificielle. Donc ça a été poussé notamment au départ par les États-Unis et par la Chine qui ont été les premiers, mais les États européens s'y mettent également, le Japon aussi, et plus récemment la Commission européenne a également décidé de lancer un grand plan intelligence artificielle qui va en gros démarrer à partir de cette année et qui sera notamment bien développé dans le prochain programme cadre européen à partir de 2022.
Un petit cocorico quand même, c'est que dans toutes les publications intelligence artificielle, l'Europe est numéro un devant la Chine et les États-Unis. Quoi.
Mais en termes de réalisation, pour le moment, on est loin derrière.
On
ce sont les deux
derrière.
Géants aujourd'hui qui cherchent à contrôler. On voit l'enjeu que ça représente, États-Unis et Chine.
Et c'est pour ça qu'on a notamment des plans à la fois nationaux et européens pour le développement. Le plan national pour l'intelligence artificielle, hein, il a une composante talent pour en gros dynamiser la recherche, attirer les meilleurs chercheurs, les bonnes personnes. Il a une composante diffusion de l'intelligence artificielle dans l'économie, de manière à ce que les entreprises s'en saisissent et se développent grâce à ça. Et également une troisième composante qui est très importante, qui est assez originale par rapport à l'ensemble de la population, mondial, c'est la composante éthique. C'est-à-dire qu'en France, en Europe et dans quelques autres pays, notamment au Canada, qui sont assez proches de nous sur ces sujets, on accorde une très très grande importance à ces sujets.
Peut-être et on a vu avec, évidemment, ce que ça pouvait représenter, avoir comme conséquence, que ce secteur-là est absolument capital. En revanche, Anis Mbida, la grande peur des gens, c'est plus de caissières dans les supermarchés, plus de chauffeurs de voitures qui seront toutes, et donc une recomposition du paysage du travail et de la formation totale liée à l'intelligence artificielle.
Alors ça, c'est le fantasme, enfin, ou la peur principale, tout simplement parce qu'encore une fois, on est biberonné à la science-fiction, aux robots. On avait peur des robots majordomes hein, qui allaient tuer le métier de femme de ménage ou d'employé de maison, etc. On a vu qu'à part les petits aspirateurs, vous savez, les petits, cette espèce de petite boîte là, qui circule et qui cogne partout, on n'a pas eu grand-chose.
Absolument fascinant, qu'on commander à distance pour que l'appart soit propre quand
mais
on arrive.
Si on veut être un peu technique, la plupart des travaux sur l'intelligence artificielle, les deux secteurs où lesquels on fait des progrès considérables, c'est la vision artificielle et le jeu. C'est-à-dire que les intelligences artificielles sont capables de jouer mieux que les hommes au poker, au Go, même à des
on
jeux comme Dota 2.
On l'a vu aux échecs depuis quelques
aux
temps.
Échecs depuis
et
des années.
Aux échecs, ça fait 20 ans.
Et aux échecs, les dernières données qu'on a, c'est que le robot et même joue de manière un peu,
oui, capable d'apprendre
un peu perfide avec son adversaire, qui peut le terrasser plus tôt, mais qui l'attend un petit peu comme s'il allait rechercher du plaisir de gagner. Alors là, on est dans le fantasme.
Alors encore une fois, on est dans le jeu, même dans les jeux vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui vidéo, il y a un jeu qui s'appelle Dota 2, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est un jeu stratégique extrêmement complexe. Aujourd'hui, les ordinateurs arrivent à battre les humains. Mais il y a l'autre secteur, c'est la vision artificielle, tout ce qui est analyse.
On va en parler dans un instant, parce que ça, c'est extrêmement important et ça a des conséquences, Anis Mbida, là, pour le coup, concrètes et extrêmement importantes. 39-21, continue à participer.
Oui, les ordinateurs peuvent-ils fantasmer, hein, c'est une bonne question, François, avec votre exemple des échecs. N'hésitez pas à poser des questions à nos invités ou à témoigner en direct sur Europe 1. On vous attend au 39-21. Et puis vos commentaires sont bien évidemment les bienvenus sur les réseaux sociaux, la page Facebook d'Europe 1 et Twitter avec le hashtag Europe 1. Et on continue à faire le tour de la question avec vous, François Claus. L'intelligence artificielle, un secteur en plein développement. D'ailleurs, on a répondu à une des questions de nos auditeurs sur Twitter avec le hashtag Europe 1 qui s'interrogeait sur l'investissement de la France et de l'Europe en la matière. Et ce sont nos invités qui répondent. Alors, nous avons Anis Mbida, notre spécialiste des innovations. Bertrand Braunschweig, directeur du centre de recherche INRIA-Saclay en Ile-de-France, est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Également présent avec nous, Laurent Alexandre, chirurgien, l'auteur d'un ouvrage qui a pour titre « La guerre des intelligences, comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation ».
Et Anis Mbida, vous vouliez réagir, je vous ai coupé un petit peu, sur la vision artificielle. C'est quelque chose qui peut avoir des...
Oui,
c'est un secteur énorme.
C'est là où on fait les progrès les plus colossaux. On a parlé tout à l'heure d'analyse des radios, on est capable de détecter les choses, l'analyse de la rétine aussi, on est capable de détecter les choses, mais c'est aussi dans l'environnement. Aujourd'hui, là, d'un point de vue plus personnel, on a tous des Google Photos, des Apple Photos ou des Microsoft MSN avec des photos qui sont capables, mais de reconnaître des photos de votre enfant, par exemple, depuis qu'il est bébé jusqu'à 15 ans ou 18 ans. C'est-à-dire qu'il analyse toutes vos photos, il est capable de le reconnaître, c'est assez magique. Il est capable de reconnaître, vous êtes sur une plage, vous êtes sur, c'est un anniversaire, et il y a des progrès colossaux qui ont été faits dans ce domaine. C'est pour ça qu'on met de plus en plus de reconnaissance faciale dans les gouvernements, dans le contrôle aux frontières. Aujourd'hui, quand on veut passer la douane le plus rapidement, il faut laisser ses empreintes et analyser.
Oui, c'est assez fascinant quand on se retrouve dans la petite cabine à l'aéroport et que tout d'un coup, on est contrôlé aujourd'hui à travers nos...
C'est là où il y a les progrès les plus colossaux aujourd'hui.
Sur la vision, le traitement d'image, moi j'aime bien en général donner l'exemple de Makoto Koike, qui est un agriculteur japonais qui fait des concombres en fait.
Oui.
Fait des concombres et donc c'est un exemple qui est donné par Google. Son fils, qui est un petit peu techno, a dit j'ai acheté un petit processeur pas cher, j'ai utilisé les images, je vais prendre la plateforme d'apprentissage de Google qui s'appelle TensorFlow, qui est le leader mondial des logiciels d'apprentissage automatique, et je vais faire un système qui va classer les concombres parce que suivant leur forme, leur taille, leur couleur, ils ne se vendent pas au même prix. Donc ils ont fabriqué une petite machine et on voit des vidéos de cette machine qui a un taux de succès assez intéressant, du genre 70-80% de bon classement des concombres dans les bonnes boîtes. Donc ça marche très bien. Mais si on réfléchit une seconde, on se dit que cette machine qui a été entraînée par apprentissage automatique, qui est donc typiquement un système d'intelligence artificielle, ne sait pas ce que c'est qu'un concombre, ne sait pas que c'est en 3D, ne sait pas que ça se mange, ne sait pas que ça c'est petit cornichon et ça devient concombre. Ça, c'est juste que cette machine, elle sait juste qu'il y a une image, quelques pixels verts sur un fond gris.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, Bertrand Braunschweig ?
Ça veut dire que aujourd'hui, on sait faire des systèmes qui sont très très spécialisés, qui ne comprennent pas ce qu'ils font, contrairement à nous-mêmes quand on applique ce genre de raisonnement, qui ne raisonnent pas, qui font simplement un traitement, disons, de type corrélation entre une image et une sortie désirée qui est telle catégorie
Donc vous ne dites pas que ce logiciel sera capable un jour de nous dire celui-là est bon et celui-là n'est pas bon.
Aujourd'hui, absolument pas. La seule chose que ce logiciel sait faire, c'est classer une image dans une catégorie. Et donc il y a une très grande différence entre corrélation et causalité. La corrélation, c'est par exemple, vous allez dans la nature, vous voyez des éoliennes et vous dites, ah oui, il doit y avoir du vent par là. Mais ce n'est pas la présence des éoliennes qui crée le vent, d'accord ? Donc la causalité dans l'autre sens. Un système artificiel peut apprendre des corrélations très facilement. Là, j'en ai un par exemple, c'est les dépenses d'Amérique du Nord sur la science, l'espace et la technologie qui s'alignent parfaitement, qui peuvent prédire parfaitement le taux de suicide par pendaison et suffocation. Les courbes sont exactement alignées, on peut prédire l'un à partir de l'autre. Ça, c'est de la corrélation. Mais il y a zéro causalité dans l'affaire. D'accord ? Donc, on n'en est vraiment pas là. Aujourd'hui, on en est à apprendre des corrélations entre des images, des classes, du signal et des mots. Mais on n'est pas en train d'apprendre la causalité qui est la compréhension intime des phénomènes. Et je pense que, et là, on en est encore très, très loin.
C'est extrêmement important. Et Laurent Alexandre, on a encore une marge, nous, de compréhension supérieure.
Ah bah, évidemment, l'intelligence artificielle reste incroyablement conne. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas qu'elle existe, elle ne sait pas que le monde existe, elle ne sait pas que les concombres existent. Donc par rapport à l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle est très 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 différente. Elle fait de façon incroyable des corrélations très rapides entre différents éléments du monde, ce qui lui permet de voir un scanner mieux que nous, sans savoir ce qu'est un cancer, sans savoir ce qu'est un cancérologue, sans savoir ce qu'est un malade. L'intelligence artificielle n'a fait aucun progrès dans la connaissance du monde et dans la connaissance d'elle-même. C'est-à-dire, il n'y a aucun progrès dans la conscience artificielle. C'est-à-dire que depuis l'invention du mot en 1956, on n'a pas fait le début du commencement d'un progrès dans la capacité de l'intelligence artificielle à savoir qu'elle-même existe. Donc on voit bien qu'il y a deux mondes qui sont en train de se construire. Le royaume de l'intelligence artificielle, quand il y a beaucoup de données pour éduquer l'intelligence artificielle, et puis le domaine de l'homme, lorsqu'il y a une réflexion profonde sur les choses et quand on doit décider à partir de pas beaucoup de données. Parce qu'aujourd'hui, il faut des montagnes de données pour éduquer une intelligence artificielle. Et quand il n'y a pas beaucoup de données, eh bien l'intelligence artificielle est absolument incapable de travailler parce qu'elle ne fonctionne qu'avec des corrélations sur des très 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 grands ensembles de données. C'est d'ailleurs ce qui donne un avantage immense aux géants du numérique, Google, Apple, Facebook et Amazon aux États-Unis, et puis Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi en Chine. Comme ils ont des montagnes de données que nous mettons sur nos téléphones portables, ils peuvent éduquer les intelligences artificielles bien mieux que les Européens.
Anis Amida.
Oui, d'ailleurs, on le voit, on peut le constater nous-mêmes au quotidien. On a tous un assistant vocal sur son téléphone portable et beaucoup de gens ont arrêté de l'utiliser parce qu'à chaque fois qu'il posait une question, il répondait à côté ou ne comprenait pas ce qu'on voulait dire. Donc, on a beau dire que les machines vont remplacer les hommes, etc. On a peur pour l'emploi. Mais encore une fois, les gros progrès sont sur la vision artificielle et sur le jeu vidéo. Mais quand il s'agit de faire des choses qui pourraient remplacer un emploi d'un être humain, on parlait d'une caissière tout à l'heure, on parlait aussi d'un pompiste ou bien d'un journaliste, ou bien de tous les métiers qu'on imagine pouvoir être remplacés par les intelligences artificielles, on en est encore extrêmement loin. Alors, on annonce des 2035, des 2040, etc.
Mais la vérité, c'est qu'on
le voit sur la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, ça fait combien d'années qu'on fait de la reconnaissance vocale? Ça part 20, 30 ans. Aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès, mais c'est incrémental. On avance à tout petit pas de fourmi et on n'en est pas au grand soir où les robots vont remplacer les hommes. On est très, très loin de
mais
ça.
Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est ce progrès-là qui intéresse le plus l'homme, justement.
C'est celui qui fait le plus
quand
peur.
Quand on voit le succès là, des enceintes connectées à commande vocale, combien il y en a eu dans le monde? Plus de 160 millions vendus en quelques mois. C'est-à-dire que l'être humain, avec sa conscience à lui et son cerveau, reste quand même fasciné par ce robot qui lui répond.
Moi, je crois que c'est ce qu'on va voir le plus se développer cette année. Hein, ce sont tous ces dialogueurs, hein, les agents conversationnels, les systèmes commandés par la voix, parce que ça marche quand même relativement bien. C'est-à-dire que la compréhension de la parole a fait des grands progrès et ces systèmes arrivent à peu près à bien interpréter nos demandes. Et derrière, il y a toute une industrie qui fabrique des applications. Ce que fait cette enceinte à commande vocale, ça n'est qu'une grande gare d'aiguillage, une grande gare de tri. Elle analyse le texte et va orienter la demande vers une application qui, elle, n'est pas une application d'intelligence artificielle, hein, qui, en général, va chercher dans des bases de données. Hein. Et les gens développent énormément d'applications pour répondre à ces demandes.
Alors,
donc, c'est ce qu'on va voir se développer cette année.
J'ai retrouvé le chiffre exact, hein, 164 millions, c'est à peu près ce que je disais, on les appelle les smart speakers. Alors, autant
dire, ça marche mieux en anglais.
Hein, et en français,
c'est du haut-parleur intelligent.
Du haut-parleur, dit intelligent, vendu au prix moyen de $43, c'est quand même un marché qui a généré 7 milliards de dollars.
Pourquoi ça marche si bien? C'est parce que ça répond à un problème que l'on a tous. Quand on a notre smartphone, qu'on a nos téléphones portables, il faut appuyer sur des boutons, il faut lancer des applications. Ça prend du temps, on ne sait jamais sur quelle plage, on ne sait jamais quelle application. Alors que quand on parle à son enceinte, c'est ce qu'il y a de plus naturel pour l'homme de lui dire « Allume-moi la lumière, mets-moi la télévision, joue-moi telle chanson, mets-moi Europe 1 », c'est tellement plus simple et plus naturel que c'est pour ça qu'elles ont un succès. Ces
Sauf si vous lui demandez « Est-ce que Emmanuel Macron est un bon président ?» Là, il ne saura pas
là,
répondre.
Il aura plus de mal. C'est pas écrit sur Wikipédia encore.
Êtes-vous fasciné ou avez-vous peur de l'intelligence artificielle? N'hésitez pas à témoigner, à commenter via les réseaux sociaux, bien sûr, hashtag Europe 1 sur Twitter, la page Facebook d'Europe 1. Et puis si vous souhaitez intervenir en direct sur notre antenne, c'est le 39-21.
Europe 1.
On parle d'intelligence artificielle. À l'antenne, hors antenne, le sujet est passionnant. On fait le tour de la question avec vous, François Claus.
Saison, hein. Il y aura plusieurs tours de questions.
Il nous reste encore quelques minutes, malheureusement, jusqu'à 11h. On en parle
avec
vous et vos invités.
Oui, avec Bertrand Braunschweig, avec Anissa Mbida et Laurent-Alexandre est au téléphone également. C'est malheureusement le tour de fin déjà, mais il y a une question qui se pose. Vous me parliez de l'hiver, du troisième hiver, Bertrand Braunschweig. De l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous voulez dire ?
L'intelligence artificielle est connue pour ses hivers. Alors, ça a démarré dans les années 50, hein, et dans les années 60, il y a eu beaucoup d'enthousiasme sur le potentiel de l'intelligence artificielle, les gens y croyaient beaucoup, et puis il y a eu une retombée assez forte en fin des années 60, avec d'une part la démonstration faite par des scientifiques que les réseaux neuronaux tels qu'on les concevait à l'époque ne pouvaient pas appréhender des comportements non linéaires, étaient donc très très limités, et que les systèmes de raisonnement, de planification n'arrivaient pas à passer à l'échelle. Et donc, un premier hiver dans les années 70, hein, dû à ces limites-là. Ensuite, des gens ont continué à travailler, notamment les systèmes experts se sont développés. Ça, c'était la période des années 80, où on représentait la connaissance des spécialistes par des règles, des faits, et on raisonnait là-dessus. C'était l'approche qu'on appelle symbolique, le raisonnement imitant le raisonnement humain. Ça s'est bien développé, avec un grand enthousiasme et beaucoup d'espoir, et c'est retombé parce qu'en fait, on avait des problèmes de passage à l'échelle, des problèmes de cohérence dans les bases de connaissances, des problèmes de machines qui tournaient de manière spécialisée et pas sur les ordinateurs de tout un chacun. Et donc, il y a eu un deuxième hiver, l'hiver des systèmes experts, dans les années 90. Donc aujourd'hui, on est plutôt au printemps, voire à l'été de l'intelligence artificielle, avec l'apprentissage profond qui a vraiment changé la donne. Mais ce que je disais tout à l'heure, la question de la confiance est essentielle. Alors d'une part, il y a énormément de promesses de l'IA et il faut que ces promesses soient tenues. On n'est quand même pas certain que les systèmes arriveront à faire tout ce qu'ils sont censés faire. Aujourd'hui, les véhicules autonomes de niveau 5, c'est-à-dire totalement autonomes, on ne pense pas qu'ils arriveront. INRIA, on a écrit un livre blanc sur le sujet, on ne pense pas qu'ils arriveront avant 2040. Donc on est très très dubitatif sur la question. Donc premièrement, on n'est pas certain que les promesses seront tenues. Et deuxièmement, cette question de confiance, de validité, de preuve, etc. est très importante. Et le troisième hiver pourrait être un hiver social, c'est-à-dire un hiver des personnes, des gens qui diront on n'en veut pas, on n'a pas confiance.
Une révolte des gens. Rapidement, Laurent-Alexandre, pour le mot de la fin, de votre côté, hiver, été, printemps, automne, là pour l'intelligence artificielle.
Je suis entièrement d'accord avec M. Braunschweig. Il y a aujourd'hui beaucoup de surpromesses. Il y a beaucoup de start-up qui prétendent faire de l'intelligence artificielle alors qu'elles n'en sont pas. Et elles piquent de l'argent à des pigeons, à des investisseurs crédules. Et quand ils vont s'en rendre compte, ça va mal se terminer. Il y a des domaines qui font beaucoup de progrès en intelligence artificielle. Puis il y a des domaines où on ne fait aucun progrès à l'heure actuelle. Et donc, il y a beaucoup de surpromesses. Et quand il y a des surpromesses, il va y avoir des gens ruinés, des gens déçus, des gens qui vont être tristes parce qu'ils se seront fait avoir. Il faut raison garder. Il y a des domaines où l'intelligence artificielle progresse, il y a des domaines où elle ne progresse pas. Il faut être discriminant et il faut bien voir la réalité technologique derrière parce que les gens ont une pensée magique aujourd'hui. Ils imaginent que l'intelligence artificielle est en train de tout bousculer alors qu'il n'y a que dans certains domaines bien spécifiques, bien particuliers où elle progresse. Moi, je recommande aux investisseurs de faire attention parce qu'il va y avoir beaucoup d'investisseurs qui vont être déçus. Beaucoup de déceptions dans le levée de fonds aujourd'hui. Il y a des gens qui se font pigeonner par des gens qui ne sont pas honnêtes sur le plan technologique et sur le plan financier. Faites attention, il y a énormément de surpromesses en intelligence artificielle aujourd'hui.
On va retenir votre message d'attention. Le mot de la fin pour Anissa Mbida.
Oui, moi je pense qu'on va... Enfin, je vais mettre dans la ligne de mes collègues. Il y a quelque chose de formidable avec la science-fiction qui nous, justement, nous fait peur, qui nous imagine que ces robots, que ces intelligences vont remplacer. Mais il y a quelque chose de très positif dans tout ça, c'est que justement, ça nous alerte sur ce qu'on ne veut pas avoir.
Absolument. Et donc, c'est si un vous peu regardez, la partie... on parlait des aliments ultra transformés dans une émission, je revoyais, moi, Soleil le film d'il y a plus de 30 ans.
C'est l'énorme bénéfice de la science-fiction, c'est que ça nous donne à voir ce qu'on ne veut pas obtenir. Et donc, justement, on va devenir extrêmement vigilant parce que ces intelligences artificielles, ces logiciels vont être mis en place dans le quotidien par les administrations, par le grand public, et on va les mettre à l'épreuve. Et il y a des choses qu'on ne voudra pas avoir. Et cette année, je pense qu'on va avoir quelques scandales sur l'intelligence artificielle et on va en revenir d'un point de vue social. Beaucoup de gens diront « je n'en veux pas ».
Merci de ce mot de la fin. Ben, si on doit citer quelques films, livres autour de ça, lisez Houellebecq, évidemment, La possibilité du Nil. qui évoque l'immortalité, finalement très très embêtante. Thème repris d'ailleurs par la série sur Arte en ce moment, Ad Vitam. Vous vouliez dire un mot ?
Une lecture aussi, si je peux. Hein.
Allez-y.
Ah, mais lire le livre de Stanislas Dehaene qui s'appelle Apprendre, qui parle de l'apprentissage des machines et de l'apprentissage des enfants, qui est absolument passionnant.
Tout ça, vous le retrouvez évidemment sur le site d'Europe 1. J'ajoute une BD, Bug, de Henki Bilal. Voilà, on me fait signe, allez,
oui.
C'est fini,
Annie,
c'est terminé.
On le retrouve sur Europe 1 quand même, les matins de la semaine. 7h25, hein, tous les matins. On fait le tour de la question.
Merci merci aux invités, merci à vous, Marlène.
Avec la Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.